Les petites histoires font les grandes histoires. Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région, avec petites et grandes histoires de la Basse-Marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse-Marche, intitulée aujourd'hui « Les petits métiers de la forêt jadis en Basse-Marche ». Ce sera notre 253e émission et notre 169e chronique. Nous avons déjà consacré une émission entière à l'homme, la forêt, le bois, jadis en Basse-Marche. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux métiers de la forêt, ceux de la cueillette, ceux du bois ou du charbonnage. Pour les textes, j'ai fait appel aux auteurs et aux ouvrages suivants. Charles Sylvestre, des extraits de Belle France et du Voyage rustique. Marcel Benzi, artisan, mes amis. Florence de Guy, Fanchette. Et des extraits de la revue Vie et métiers, intitulée Les petits métiers de la forêt. Si aujourd'hui les forêts sont vides d'hommes, jadis, elles offraient d'inépuisables ressources à tous ceux qui lui arrivaient les mains vides. Des populations entières y sont installées, vivant d'elles, travaillant dans les fourrés et les futaies. Ce menu peuple qui passe sa vie ou une partie de sa vie entre les branches ou au pied des arbres ignore à peu près tout du reste du monde. La forêt permet la pratique de l'essartage pour récupérer des sols provisoirement fertiles, mais aussi la glandée, la paisson et le panage pour nourrir les porcs et le bétail, d'où l'importance de la plantation des chênes. La forêt permet aussi la cueillette, des fougères, des fruits, des baies, des champignons. La forêt autorise l'affouage pour les productions de fagots. Elle permet aussi la production du bois de chauffage. Concernant le travail du bois, on trouvera donc des sieurs de long, des fendeurs de mérin ou mérandiers, des fendeurs latiers, des débardeurs, des écorceurs, des fendeurs d'échalas, des coupeurs de perches, des vanniers et des fabricants de menus objets. La forêt abrite aussi les sabotiers, les charpentiers, les boiseliers qui fabriquent des seaux à puiser l'eau, les balaitiers fabriquant des balais en bruyère ou en genêt, mais aussi des braconniers ou des chasseurs de vipères, et bien sûr, des gardes forestiers.
Petites et grandes histoires de la Basse-Marche.
Nous allons d'abord nous intéresser à l'essartage. Après chaque coupe de bois, les essarteurs brûlent sur place résidus, brindilles, ramilles ou menues branches qui n'atteignent pas une dimension suffisante. L'opération commence dès que les troncs sont façonnés ou enlevés. L'essartage nettoie le sol et l'amande, lui donnant un surcroît de fertilité suffisant pour imprimer non seulement une vigueur remarquable aux plantes annuelles qu'on y cultive, mais encore au rejet des souches récemment exploitées. Un voyageur du milieu du XIXe siècle raconte « Une odeur âcre, chassant soudain les vivifiantes senteurs des bois se répand à travers une clairière, par-delà des troncs noircis, d'épais nuages de fumée, des lueurs rouges tourbillonnent, des silhouettes d'hommes, de femmes et d'enfants vont et viennent avec des cris, et sur ce lieu rendu sinistre, nous découvrons de joyeuses commères débraillées, manches retroussées, jambes nues, armées de fourches, et qui, tout en gourmandant leurs jeunes enfants, activent la combustion de mottes de terre et d'herbe symétriquement rangées. C'est une des phases de l'essartage qui, de loin du sommet d'une colline, se donne des apparences de village qui flambe. À partir du XVIe siècle, on emploie également le mot « décobuage » d'après un terme dialectal de l'Ouest. la terre gobuée, c'est-à-dire la terre pelée où l'on a mis le feu. La forêt permet aussi la paisson et la glandée. La paisson donne aux paysans le droit de mener ses porcs dans le bois. Ce droit se distingue de celui de panage ou de glandée qui lui permet de ramasser les glands des chênes tombés à terre pour nourrir ses bêtes en toute saison. Les porcs sont particulièrement nombreux dans les forêts de chênes. À leur arrivée, les Romains s'extasiaient sur les multitudes de pourceaux qui erraient librement à travers toute la Gaule. Chez les Francs, on fait une grande consommation de leur viande et Olivier de Serres, précurseur de la grande cuisine française, écrit au XVIe siècle « La plus délicate viande de pourceau est faite de glands ». Dans la forêt, on fait également paître les chèvres, mais la chèvre reste la cause de nombreux dégâts dans les forêts. Elle consomme non les fruits, mais les jeunes branches et les feuilles. Dans les forêts, pour nourrir les animaux, le chêne est l'arbre par excellence. Aubert de Tourny, intendant du Limousin au début du XVIIIe siècle, veut favoriser l'implantation de chênes suite aux nombreux manques dont souffre la généralité de Limoges depuis le terrible et funeste hiver de 1709. Il écrit « Quant aux chênes, le prix excessif auquel le Mérin est monté depuis un certain nombre d'années en a occasionné la plus grande destruction. Chacun, en coupant ses arbres, tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, n'a été frappé que de la valeur qu'il en recevait, sans songer qu'il se privait insensiblement d'une glandée d'autant plus nécessaire aux cochons qu'il restait peu de châtaigniers pour y suppléer. Au moyen de quoi, le commerce considérable qui se faisait dans la province sur ce bétail est beaucoup tombé. Nous voici maintenant aux bonnes heures de la cueillette. Nos lointains ancêtres préhistoriques vécurent longtemps de la seule cueillette. Ce texte de la fin du XIXe siècle rappelle l'importance de cette pratique ancestrale. À chaque temps fort de l'année, son travail. Dans les masses de verdure, la forêt tient de nombreuses richesses en réserve pour les petits coureurs de bois qui vivent de ses libéralités. Pauvres diables, vieilles femmes et gamins, ils chassent régulièrement la fleur et le fruit. Pour eux, nul chômage. En avril, le muguet, le joli muguet qui porte bonheur, vient à peine de laisser faner ses clochettes blanches que sortent de terre, droites comme des i, les hampes grasses des jacinthes roses et des jacinthes bleues. La cueillette, incessamment renouvelée, va des aubépines et des collerettes lustrées du narcisse aux petites violettes qui embaument si fort. La mousse, elle-même, est précieusement récoltée. En août et en septembre, le gland jonche le sol autour des chênes, toujours prêt à faire les délices futures des porcheries. Il n'y restera guère sur le sol, une nuée de femmes et d'enfants étant chargée de le ramasser avant qu'il ne se gâte. Qu'une ondée survienne, et il n'en faut pas plus pour mettre en joie les forestiers qui se muent en cueilleurs de champignons. Quand il ne restera plus ni campanule dans les clairières, ni iris au bord des mares, ni chèvrefeuille enchevêtrée dans les buissons, on continuera à gagner quelques sous avec les boules blanches du gui et les boules écarlates du houx. Dans Belle France, Charles Sylvestre traite lui aussi de la cueillette. Il est vrai, écrit-il, que la forêt est toujours amicale aux hommes. Mon grand-père, du côté maternel, était originaire d'une vieille famille paysanne qui trouvait sa subsistance dans la cueillette en forêt. Il disait qu'il n'était pas de plus belle vie. La forêt donne aux hommes tout d'un bout à l'autre de l'année. Au printemps, ils vont dénicher les morilles sous les branches des sapins. Un peu plus tard, ils chassent les escargots, délicieux à manger, nourris de tendres pousses nouvelles. Au commencement de l'été, ils cherchent les fraises sauvages qui s'annoncent par leur parfum. Ils cueillent aussi les framboises, les mûres, qui donnent des confitures excellentes. Ils ramassent des plantes qui purifient le sang et guérissent l'anémie, comme la centaurée. À la fin de l'été, ils trouvent d'autres champignons, comme les chanterelles et les roussottes, que les gourmets aiment à manger en omelette. En septembre, ils vont à la recherche des poires et des pommes, âpres au goût, et qui font pétiller le cidre en lui donnant du bouquet. Un peu plus tard, il y a les noisettes, les faines des hêtres. Au seuil de l'hiver, les beaux cèpes sortent de la mousse. La forêt, toujours généreuse, offre ses dons qui font vivre des familles entières. Avant la guerre, les fougères et les genêts étaient coupés et brûlés. Leurs cendres fines, vendues aux lavandières qui les recherchaient, pour la blancheur qu'elle donne au linge. À la lisière, le menu peuple a pris l'habitude depuis des siècles de chercher provende. On mène encore au futaies de chêne ces porcs réputés que l'on appelle glandiers. Ils se gavent de gland qui leur donne une saveur particulière. Les brebis et les bœufs y trouvent une herbe odorante, mais trop souvent, on laisse courir le bœuf à barbe, c'est-à-dire la chèvre qui fait toujours beaucoup de mal.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Dans Fanchette, Florence de Guy nous parle de la cueillette des fleurs. Bien des gens vivaient des prés et des bois. Un peu plus tard, les sous-sols baignés de verre livraient cette merveille, le muguet. La plante jaillit sur une tige ferme et rien n'est plus gracieux que le repli de la feuille translucide. Les fleurs étaient réunies, serrées, et les feuilles leur faisaient une épaisse collerette. Ces bouquets se vendaient fort bien. Leur forme massive n'avait rien de la grâce libre du muguet blanc et vert, couleur de perle. Mais le parfum en est tel qu'il se boit les yeux fermés, comme une liqueur magique. Moins souverain que celui de la rose, il domine celui de la violette et fait trouver vulgaire celui du lilas. Il est tel qu'en le respirant, l'être le plus fruste sent revivre en lui une heure, moins même un instant, où l'attente d'un bonheur enchanta son âme comme le muguet parfume le sous-bois. Un peu plus tard, près de la Gartempe, les narcisses se bottelaient raides et couronnées d'or. Le bouquet en était lourd et les tiges coupées pleuraient longtemps. En été, tous vendaient de petites bottes de centaurée et de très gros bouquets de brise tremblante, herbe si jolie sur l'extrême ténuité de ses tigelles.
Voici l'hiver arrivé, les rivières sont gelées, c'est le temps d'aller au bois, manger du lard et puis des pots. Dans les chantiers nous hivernerons, dans les chantiers nous hivernerons,
dans les chantiers nous hivernerons, dans les chantiers nous hivernerons.
Pauvres voyageurs de la misère, souvent tu couches par terre, à la pluie, au mauvais temps, à la rigueur de tous les...
Parmi les métiers du bois, nous allons nous intéresser seulement aux feuillardiers et aux fendeurs. Nous parlerons dans une autre émission des bûcherons, des scieurs de long, des écorcheurs, des fendeurs ou des coupeurs de perches. Avec Charles Sylvestre, dans Belle France, nous nous intéressons aux feuillardiers et aux fendeurs. Il parla des feuillardiers. Autrefois, il en avait beaucoup connu. Il dit qu'il avait rêvé de mener, comme eux, une vie de travail en plein bois. Vous connaissez l'existence des feuillardiers, ces hommes charbonniers et fendeurs. Leur logis est vite bâti, quelques rameaux de châtaigniers courbés plantés en terre, des lattes qui les relient et sur le toit de planches des mottes de gazon ou d'argile. Dans ces huttes, dignes des âges primitifs, le feuillardier couche sur un lit de feuilles sèches et fait cuire ses aliments. Un trou dans la charpente feuillue, et voilà une cheminée. Quand la rafale souffle trop fort, il est enfumé comme un jambon. Il ne se plaint pas du sort. De l'automne au printemps, il travaille dans la solitude des bois. Il s'agit de réchauffer le temps. Il y réussit car il ne manque jamais de besogne. S'il fait beau, il se plaît à faire tourner sa hache dans les fourrés. D'habitude, il fend des lattes avec une précision, un soin merveilleux, les affine et les taille à longueur voulue avec sa lame d'acier. Son métier se perd. Depuis longtemps, les cercles de bois qui enserraient les barriques sont remplacés par des cercles de fer. Il fabrique toujours des échalas pour les vignobles. Il n'est pas facile de trouver de bons fendeurs. Il faut un regard vif et sûr qui règle le mouvement du bras selon la fibre. L'outil doit être manié avec une sûreté sans défaut. Il importe de garder à la douve sa souplesse et sa résistance. Bien souvent, j'ai vu l'ouvrier attaquer la bille, enfoncer les coins d'acier, la partager. Et toujours, je fus saisi de surprise. L'outil vivait d'une vie qui venait d'une admirable application humaine. La besogne, apparemment toujours pareille, gardait un esprit, une joie.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Comme je vous plains, les citadins, obligés de porter chaussures, les sabots c'est beaucoup plus sain. Et ça fait marcher à la dure. J'en ai taillé pour les soldats, j'en ai taillé pour les forçats. J'ai habillé cuisses légères et j'ai chaussé de sacrées mégères.
Dans son roman Le Voyage rustique, Charles Sylvestre nous parle d'un autre travailleur de la forêt, le sabotier. J'allais dire bonjour au sabotier qui travaille non loin sous un auvent et appuyé à une maison basse. Il est vieux et gai. Il aime à pousser un brin de chanson. « Le métier n'enrichit pas », me dit-il. Il me plaît comme ça, on s'en tire. Ce n'est pas facile de voir d'un coup d'œil combien il y a de sabots sous la peau d'un arbre. Moi, je le sais, à mon âge. On coupe l'arbre en billes, après, on le fend en quartier. Le vergne rougit comme une pomme coupée. Deux quartiers pour une paire de sabots, et on enlève les nœuds. Avec cette hache crochue, on dégrossit le bois, et on lui fait prendre forme. Après encore, on modèle avec le paroir, puis on creuse. Je mets les sabots à sécher sur une traverse dans la cheminée, comme des jambons. Alors, des fois, j'aimerais mieux les jambons, mais les jambons, on les fait avec des pommes de terre et des gorets. Une fois secs, je les sculpte selon l'idée du client. J'en ai fignolé avec des fleurs et des feuilles dessus. Pour les amoureux, c'était deux cœurs bien appariés. Ils étaient mignons comme des bouquets. Pas les amoureux, hein, mes sabots. Mais on ne danse plus en les faisant claquer bravement. Dans mon jeune temps, c'était plaisant de voir une bonne troupe de jeunesse virant sur de fins sabots. Ceux-là n'avaient pas les deux pieds dans la même chaussette. Et il fredonna. combien coûteraient tes sabots s'ils étaient neufs sur la petite place? Mes sabots font clic, clac, clic, clac. Il eut un geste de sa main dure, comme pour saluer quelque chose qui s'en allait et qui ne reviendrait plus.
Voix de compagnon, sabotier, vous tournez fou dans vos chaussures. Si mon métier, je l'aimais.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Dans notre région, les sabotiers furent particulièrement nombreux. C'est ainsi que, selon le préfet Texier-Olivier, on en fabriquait plus de 600 000 paires par an en Haute-Vienne en 1808 et que l'on comptait alors plus de 500 sabotiers. Dans bien des communes de notre basse marche, nos sabotiers sont comme les paveurs ou les maçons, des sabotiers migrants qui partent vers la Beauce ou la Brie, le Poitou ou la Bretagne. Mais à l'inverse des maçons et des paveurs, ils partent, eux, pendant l'hiver. C'est ainsi qu'à Jouac, où l'on comptait 13 sabotiers en 1789, ceux-ci représentaient presque 20% des émigrants. Marcel Benezi nous précise, lui, comment vivaient les sabotiers. Jadis, les premiers sabotiers vivaient au cœur de la forêt, installés pour plusieurs mois dans une cabane en planches. On travaillait dur pour faire les socs, des journées de 10, souvent de 15 heures. On mangeait, on dormait même dans cette rustique demeure, dans un lit de paille, à la dure quoi. Associés, deux sabotiers se partageaient la rude tâche. Oh, quel robuste et courageux ouvrier, les sabotiers de ce temps-là. Ils ne rechignaient pas à la besogne, on vous le dit. N'abattaient-ils pas les arbres eux-mêmes, selon leurs besoins? Ensuite, ils les tronçonnaient, les fendaient, comme le font les bûcherons. Puis, ils dégrossissaient à la hache, un outil spécial à manche recourbée pour éviter qu'on ne frappe pas la hanche, et ils creusaient à la main. Chacun sa partie, l'un pour le travail extérieur, l'autre pour l'intérieur du sabot. Une parfaite connaissance du métier s'avérait nécessaire. 3 ans et plus d'apprentissage afin d'acquérir la perfection dans le geste et d'obtenir un rendement maximum. Ainsi, on fabriquait 18 paires de sabots par jour, parfois plus. Mais que de fatigue pour celui qui maniait la hache tout le jour et tous les jours. Et quelle adresse fallait-il posséder pour creuser sans défaut les sabots? Sûr, on travaillait plus qu'aujourd'hui.
De l'aube au soleil couchant dans sa vieille échoppe, le sabotier bon enfant pousse la varlope. Et tous les gars du pays formant le quadrille dans un bruit de sabots qui monte dans la nuit. Font danser les filles, font danser les filles.
Dans la forêt, on fabrique aussi une multitude de petits objets, comme nous l'explique Charles Sylvestre. Les bergers, qui gardaient leurs troupeaux à la lisière, charmaient les heures de loisir en tirant d'un morceau de hêtre, de buis ou de noyer de charmants objets usuels. Cuillères, écuelles, gobelets, 100 choses menues qui retenaient un esprit, une joie, une gentille bonhomie. Cannes, couvertes de fleurs et d'oiseaux sculptés, plats de bois décorés de grappes légères.
Rien n'est plus fier qu'un charbonnier qui se chauffe à sa braise. Il est le maître en son chantier où flambe sa fournaise. Dans son palais d'or, avec son trésor, un roi n'est pas plus à l'aise. Un roi n'est pas plus à l'aise. Il a la forêt pour maison et le ciel pour fenêtre.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Dans son roman Fanchette, Florence de Guy, la romancière de Bellac, nous explique. Beaucoup vivaient de métiers disparus aujourd'hui. Un vieux couple allait pendant tout l'été faire du charbon dans les bois du roi. Les vieux campaient en plein taillis, de longs mois, près de la meule couverte de terre et d'herbes. Il rapportait dans des hottes le charbon léger. Dans le vague rêveur des yeux et la démarche glissante, ils avaient pris quelque chose aux bêtes des bois. Il s'agit bien sûr des charbonniers de nos campagnes, dont on retrouve les traces non seulement dans les bois du roi de Bellac, mais encore à Charbonnières de Blanzac, à la charbonnière de Lussac-les-Églises ou à les charbonnières du Dorat. Aujourd'hui, charbon de bois rime avec grillade au barbecue. Dans le passé et depuis 2000 ans avant Jésus-Christ jusque vers la fin du 19e siècle, le charbon de bois fut une source d'énergie indispensable pour développer des activités économiques. Il était, avec le bois et l'eau, l'un des moteurs des industries anciennes de l'homme, métallurgie, forge, verrerie, etc. Les charbonniers sont donc spécialisés dans la fabrication du charbon de bois. Ils avaient pour lieu de travail la forêt. Ils y vivaient une partie de l'année et bien souvent avec leur famille. Femmes et enfants participaient en effet au travail du charbonnage. À l'écart du village, sur le lieu même du travail, ils construisaient une cabane appelée hutte ou loge, faite de branchages, de terre, de chaume et de feuilles de fougère. Ils y vivaient le temps d'une saison de charbonnage qui s'étendait généralement du printemps à l'automne.
Né dans les bois, il veut mourir dans sa forêt aimée. Sur sa tombe, on viendra couvrir un fourneau de ramée. Le charbon cuira et son âme ira au ciel.
Le travail consiste à fabriquer des meules de bois de plusieurs étages, essentiellement du hêtre, du charme, du chêne ou du tilleul. La meule a le plus souvent la forme d'un dôme ou d'une demi-sphère. Elle est ensuite calfeutrée et pour cela on la recouvre d'une carapace de terre, de feuilles mortes, de mousse additionnée de résidus de charbon de bois d'une ancienne meule. À cause de leur aspect, on donne souvent à ces meules le nom de tortue. On pratique ensuite la carbonisation qui durera près d'une semaine. Le feu étouffé va progressivement s'étendre et gagner toute la meule sous la conduite vigilante du charbonnier. Il s'agit donc d'une combustion sans oxygène. La surveillance de la meule et la gestion de l'aération sont de tous les instants, de jour comme de nuit, et sont assurés par le charbonnier, sa famille et ses aides s'il en a. La période la plus difficile est la nuit, car il faut lutter contre le sommeil. Par exemple, si le vent pénètre trop fortement dans la meule, le bois risque de s'embraser. Au fil des jours, la meule se tasse jusqu'à ce que le charbon de bois soit à point, on dit, bien cuit. Et ensuite, le démeulage pourra commencer. Le charbon de bois sera ensuite rassemblé avec le râteau et conditionné en sacs de 10 à 50 kg. Précisons, en nous appuyant sur les écrits de Maurice Robert, que 500 kg de bois vert donnent à peu près 50 kg de charbon de bois et qu'il faut au moins dans l'industrie 4 kg de charbon de bois pour produire 1 kg de fer. Donc, si on poursuit les comptes, il faut 40 kg de bois pour produire 1 kg de fer. Tout cela nous explique la disparition de forêts entières, y compris en basse marche, dont on voit des cartes postales du début du siècle dernier qui nous montrent, par exemple, les monts de Blond vides d'arbres et de forêts. Ajoutons encore qu'on comptait 78 charbonniers en Haute-Vienne en 1840. Il n'en restait plus que 22 en 1886, 13 en 1914 et seulement 2 en 1936.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
C'était un charbonnier, là-haut sur ses montagnes, il descendit à la ville d'Orléans. C'était pourri, vend son charbon. C'était dans son charbon.
Nous allons terminer avec ce curieux métier des bois et des forêts, le chasseur de vipères. Jusqu'au début du XXe siècle, de pauvres gens se livraient dans les bois et dans les forêts à la chasse périlleuse de ces odieux reptiles que sont les vipères. Parmi les êtres rampants de nos bois, il en est un qu'on redoute justement, la vipère. Dans les bocages, on relevait chaque année une centaine de morsures, dont beaucoup suivies de morts. De la sorte, chasser les vipères était devenu un véritable métier. C'est généralement 25 ou 30 centimes qu'on accorde par serpent. Les chasseurs habiles, grâce au grand nombre de vipères qu'ils capturent, parviennent à réaliser un gain assez notable. Une femme chasseresse qui tuait près de 2000 vipères par an trouvait moyen de se faire une rente de 500 francs. Comme on le pense bien, ce sont d'assez pauvres gens que les chasseurs de vipères. Ils vivent loin des villages, à la lisière des forêts, dans de misérables cabanes, se nourrissant des produits des bois. L'hiver, pour occuper leur temps et augmenter leurs ressources, ils tentent des collets, car c'est seulement d'avril à octobre qu'on peut chasser les vipères. Il faut donc attendre les premiers jours du printemps. Les vipères, alors, à demi réveillés, commencent à sortir.
Et grandes histoires de la basse marche.
Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche, intitulée aujourd'hui « Les petits métiers de la forêt, jadis en basse marche ». Pour les textes, j'ai fait appel à Charles Sylvestre, Florence Deguy, Marcel Benzi, Maurice Robert et à la revue « Vie et métiers ». Pour les accompagnements musicaux, au groupe Maluzerne, Le rêve du diable, aux chanteurs Michel Hippard, André Claveau, Annie et Jean-Marc Versini, Rosane Talek et aux musiciens Massimo Cravri que nous écoutons en ce moment. Je vous rappelle que la réalisation technique de cette émission est assurée par Philippe Quiquempois et Gérard Schillinger. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous.